Samedi Gourmet, une émission de Roger Huet.
Nous faisons parfois des rencontres qui sont un pur bonheur. Ce qui est arrivé au Québécois Michel Desforges, c'est cela. Lorsqu'il visitait les vignobles de Provence, il s'est arrêté pour dîner avec sa belle épouse Isabelle Barelli au restaurant de l'auberge de Nove de Robert Lallemand, dans les environs d'Avignon. Michel a été tellement transporté de plaisir qu'il a décidé qu'il devait présenter ce chef au Montréalais et a convaincu un autre grand chef d'ici, Éric Gonzalez, de l'auberge Saint-Gabriel, de l'inviter à venir pour quelques jours pour préparer quelques repas à quatre mains. Il est avec nous. Bonjour, Robert Lallemand.
Bonjour, Roger.
Votre carrière est impressionnante, mais l'histoire de votre auberge l'est aussi. Racontez-nous toutes les deux.
Effectivement, j'ai été très gâté au niveau de ma carrière. C'est lié avec l'auberge, puisque j'ai fait un parcours à travers les grands chefs. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 13-14 ans, et j'ai pu comme ça voyager pendant 8 ou 10 ans à travers les cuisines françaises et internationales. J'ai eu un coup de cœur à 22 ans, où c'est là que j'ai décidé que je continue ce métier. C'est avec Alain Chapelle, qui là, j'ai vraiment ressenti que j'étais fait pour ça.
Trois étoiles
Michelin, et c'était donc en 87 ou 8, je ne sais plus. Et donc là, j'ai vraiment décidé de continuer. Et ce qui m'a permis d'ensuite retrouver l'auberge et travailler donc avec mon père. C'est l'auberge, c'est mon grand-père qui l'a fondée en 1954. Il est parti de rien, c'était une bâtisse abandonnée. Dans une niche au milieu des pins magnifiques. Ils ont démarré dans un premier temps un restaurant. Et puis, petit à petit, on fait des chambres toutes personnalisées. Et donc, voilà, la saga continue maintenant.
Et vous avez travaillé avec votre père?
Tout à fait. On travaillait une dizaine d'années ensemble, de 90 à 2000. Mm-hmm. Et puis après, comme toute logique, père et fils, des fois, ça frictionne. Et donc...
Deux visions de la vie.
Deux visions de la vie, tout à fait.
La conservatrice et la révolutionnaire.
Alors, plutôt que de faire la révolution tout de suite, je suis allé la faire ailleurs. J'ai pris l'avion et je suis allé découvrir les autres cuisines un peu partout à travers le monde.
Et vous êtes allé d'abord à...
Alors j'ai fait d'abord un premier tour de Méditerranée pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de... Quelqu'un m'a fait confiance et je suis devenu exécutif chef d'un très gros hôtel aux Seychelles.
Aux Seychelles,
le Lémurien. Et là, ça a été une expérience fantastique parce que ce n'était plus un restaurant gastronomique traditionnel une simple équipe. Là, c'était trois restaurants, le room service, le restaurant sur la plage, une gestion de 70 personnes en cuisine. Donc c'était une expérience fantastique. Et en plus, découverte du produit, façon de travailler les épices aussi, où j'ai beaucoup appris.
Oui, évidemment. Dans les Seychelles, il y a d'autres influences qui doivent venir.
Voilà, il y a l'influence indienne.
Indienne, oui.
Et créole aussi.
Et créole aussi. Racontez-nous votre retour à votre auberge. Ça s'est fait comment?
Ça s'est fait un peu en précipitation. C'était pas prévu pour tout de suite. Mais j'allais repartir pour une démission au Kenya avec un groupement d'hôtels. Et malheureusement, mon père est tombé malade. C'est la famille qui m'a téléphoné et voilà, la décision, elle n'a pas été longue à prendre. Et donc, j'ai pris l'avion dans l'autre sens et je suis rentré à la maison.
Non seulement pour voir votre père, mais aussi parce qu'il fallait prendre une décision probablement sur l'avenir de l'auberge.
Voilà, tout à fait.
Vous avez choisi de continuer la tradition.
J'ai choisi de continuer et de maintenant mettre ma marque personnelle dans l'affaire et dans la façon de la réveiller un petit peu.
Mais en même temps, Avec toute cette expérience de voyage que vous avez, vous avez dû beaucoup changer depuis le temps que vous aviez quitté l'auberge.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, la maturité, ça compte beaucoup. Et la digestion de toutes les connaissances culinaires aussi.
Comment définissez-vous votre cuisine aujourd'hui ?
Ma cuisine, avec toutes mes expériences, je les ai mis toutes au service de la Provence maintenant.
Ah d'accord.
Voilà, parce que ce qui est important pour moi avec tout ce que j'ai vécu, c'est qu'il faut faire absolument une cuisine en accord avec le lieu où on est. Et donc c'est très important pour la clientèle qui vient. C'est-à-dire moi je suis à la campagne, je suis au milieu des arbres, je suis dans une maison, une grande bâtisse avec des pierres. J'ai des séjours, j'ai beaucoup de séjours, les gens restent des fois jusqu'à 3 semaines. Donc c'est une cuisine qui s'adapte à la fois au client qui passe et à celui qui reste.
Et ce n'est pas la même cuisine. Enfin, c'est la même cuisine, mais il faut qu'elle satisfasse les deux.
Voilà. Et c'est surtout, donc là, c'est pour ça que je joue surtout beaucoup sur le produit, avec mes fournisseurs qui sont autour de moi. Et bon, on a une telle variété de produits à disposition en Provence. Tout ce qui est fruits et légumes, j'ai mon potager avec les herbes et les légumes. J'ai bien sûr tout ce qu'il y a dans la colline à disposition. On a un agneau fantastique. Et alors tout ça, je joue avec. Le but du jeu, c'est d'arriver à une simplicité qui reste étonnante, quoi. C'est ça le plus dur. Et je pense que le produit, les cuissons sont très importantes.
Oui.
Et après, c'est la touche, bien sûr, l'assaisonnement, la touche personnelle, une pointe d'originalité pour égayer la table.
Oui, absolument. Car la visite au restaurant, c'est devenu aussi un plaisir de spectacle.
Tout à fait, tout à fait. On revient d'ailleurs, c'est bien, on revient un petit peu à cette notion de service et d'accueil qui est très, très importante. Il y a eu un passage où... on voyait que la cuisine, mais en fait non, maintenant c'est redevenu un ensemble, un restaurant ou un hôtel, et tous les détails sont importants.
On raconte que votre cave ne contient pas moins de 35 000 bouteilles et certains très vieux opus.
Ah, tout à fait, c'est un trésor, de guerre, on va dire. J'ai eu la chance d'avoir mon grand-père et mon père qui sont passionnés de vin. Et donc c'était la grande époque. Et ils faisaient rentrer donc les vins en primeur directement des caves. Chaque année en quantité, c'est vrai, un petit peu exagéré. Et donc à l'époque, on faisait vieillir le vin avant de le boire. Donc il y avait un roulement de disons 3, 4 ans, parfois 5 ans avant de mettre le vin sur la carte. Donc c'était une manière différente d'acheter que maintenant. Et c'est vrai que donc depuis 1954, on achète du vin dans la famille. Et donc forcément, il y a des petits bijoux fantastiques. Et notamment en gros volume, comme en magnum et en double magnum, chose qui est très rare. Sur des maisons comme Pétrus, Aubryon, ça c'est pour les grands Bordeaux. Mon grand-père achetait les Bordeaux pour ma grand-mère et mon père achetait les Bourgognes pour ma mère.
C'est formidable, c'est formidable. À mon avis, Eric Gonzalez est le meilleur chef au Québec. Est-ce que la cuisine à quatre mains entre deux grands qui ne se connaissaient pas est un jeu harmonieux ou cacophonique ?
Non, harmonieux. Ça peut déjà, on a des points communs, on est de la même région.
C'est vrai.
On a à peu près le même âge et une formation aussi à peu près équivalente. Donc c'est allé très vite. On s'est rencontrés, on s'est eu quelques fois au téléphone, on s'est rencontrés pour un briefing et tout de suite le courant est passé.
À Nove, vous avez donc un restaurant reconnu, mais aussi une auberge au milieu d'un paysage idyllique.
C'est vrai, nous sommes très gâtés. L'auberge donc, peut accueillir la capacité de 23 chambres au milieu d'un parc et on a 15 hectares de promenade autour. Donc ça, c'est tout à côté des Alpilles. Et donc les gens, on peut vraiment se reposer. Il y a bien sûr une piscine, un tennis, il y a tout ce qu'il faut pour... pour s'occuper. Et c'est un endroit idéal, en fait, pour visiter la Provence, parce qu'on est à 10 minutes d'Avignon. On est à un quart d'heure des Baux de Provence. On est à une grosse demi-heure du Luberon, à 45 minutes de la mer. Et donc, y a plein de choses à faire pour un séjour de découverte.
En plus, je crois qu'à partir du mois d'avril, c'est possible de prendre l'avion depuis Montréal jusqu'à Marseille.
Voilà, c'est une nouvelle ligne qui existe, je crois, depuis 2 ans. Et en fait, voilà, la période estivale, il y a un Marseille-Montréal direct. Et sinon, Paris est à 2h40 en TGV.
C'est vrai,
c'est vraiment très rapide. Hein.
C'est une vraie merveille, oui. Certains de nos auditeurs voudraient peut-être vous rendre visite. Pouvez-vous nous indiquer votre site et votre mail pour vous contacter?
Alors, le courriel, c'est le reza@aubergedeneuve.com. Donc ça, c'est directement le service des réservations et des renseignements. Et pour regarder le site, c'est www.aubergedeneuve.com.
Nous allons placer vos coordonnées sur notre blog. Merci d'être passé à Samedi Gourmet, Robert Lallemand.
Merci beaucoup, Roger. À très bientôt.
Mes coups de cœur de cette semaine sont deux vins de la maison Augier. La maison Augier est située au cœur de la vallée du Rhône, à quelques pas du château d'été des Papes. Augier y produit des vins depuis plus de 150 ans. Ses origines, pourtant, sont très anciennes et se perdent dans la légende. Un certain Augier le Danois aurait été le compagnon d'armes de Charlemagne au 8e siècle. Homme d'une force extraordinaire, il aurait livré des combats terribles contre les musulmans d'Espagne et aurait fait partie du convoi qui fut attaqué à Roncevaux au retour de cette croisade impériale et qui causa la mort du célèbre Roland. On dit qu'il s'était établi dans la région du Massif central, dont on retrouve encore ses descendants, surtout dans la région de Saint-Étienne, à Molinat-Talaudière, où un certain Étienne Augier a d'ailleurs fondé la première maison Augier pour le négoce du vin. Cet Augier avait l'habitude d'acheter son vin dans la vallée du Rhône. Certains de ses parents finirent par s'établir en Côte-Rôti et à Châteauneuf-du-Pape. En 1895, Antoine Augier prend la direction de la maison de négoce et déménage le siège social à Châteauneuf-du-Pape, où il se spécialise dans le commerce des vins fins. À partir de 1848, Augier fait plusieurs alliances stratégiques, achète plusieurs maisons de négoce et devient Augier Cave des Papes. La maison est finalement absorbée par le groupe Berger Marie Brizard, qui le cède au groupe Advini en 1994. Le groupe Advini, comme il le fait avec toutes ses acquisitions, commence par restaurer le siège social et les domaines et favorise sa tradition et sa production de qualité. Il envisage également une nouvelle approche internationale de mise en marché. Au cours de la restauration des caves voûtées d'origine médiévale, il découvre trois puits artésiens qui apportent fraîcheur et humidité, une aubaine dans une région dont le climat est chaud et sec. Aujourd'hui, ces caves, magnifiquement restaurées, accueillent des foudres et des barriques pour faire vieillir leur meilleur vin. À partir de l'an 2000, sous la houlette d'Advini, Augier s'allie avec la maison Léonce Lamoureux, qui possède un des meilleurs terroirs de Châteauneuf du Pape, le clos de l'oratoire des papes. Augier s'agrandit en 2003 du domaine Notre-Dame de Cousignac en Ardèche. Les vignobles d'Augier, qui à l'origine étaient de 40 hectares en côte du Rhône et côte du Vivarais, atteignent maintenant 60 hectares exploités en mode biologique. Advini fait maintenant des alliances au nord et au sud de la vallée du Rhône pour permettre à la maison Augier de présenter tous les crus de la côte Rôti à Saint-Joseph en passant par Gigondas et Lirac, ce qui représente un vignoble global de 85 hectares. À partir de 2006, Jean-Pierre Durand prend la direction de la maison Augier et décide de l'ouvrir au public et crée un conservatoire des terroirs dans la cour du siège social pour l'éducation des visiteurs. La production annuelle du groupe dans la région est d'environ 9 millions de bouteilles, dont un tiers porte l'étiquette Augier. Environ 65% de la production est exportée. Les principaux clients sont la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Danemark, les États-Unis et le Canada. Augier fait maintenant une percée importante sur le marché asiatique. Nous allons déguster le clos de l'oratoire des papes 2010, appellation d'origine protégée Châteauneuf du Pape. Il est fait de Grenache 80%, Syrah 8%, Mourvèdre 7%, Cinsault 5%. Il a 14,5 degrés d'alcool. Élevage pendant 12 mois en foudre de chêne d'une trentaine d'années. La robe est d'un rubis intense. Nez très expressif sur des arômes de fruits noirs, de cassis et de mûres, effluves de violette et de mousse fraîche, le fond est relevé par des parfums de cuir frais et très épicés qui annoncent la puissance de la bouche. En bouche, l'attaque est très franche, avec une superbe minéralité, des tanins très soyeux. Les arômes qui reviennent sur du fruit rouge frais et des épices. Une longueur remarquable et rafraîchissante, un vin de gastronomie qui est un partenaire idéal d'une bonne pièce de bœuf, des mets relevés et des fromages goûteux. Nous allons déguster maintenant un autre vin de la maison Augier, le Côte du Rhône Héritage 2011, appellation Côte du Rhône. Il est fait de Grenache à 70%, Syrah 25%, Mourvèdre 5%. L'élevage dure 12 mois et il est fait en foudre de chêne de 5 à 40 ans. Robe rubis soutenue avec des reflets violines. Nez expressif et complexe de fruits rouges mûrs, framboises et myrtilles, principalement des notes de poivre, sur un fond délicatement chocolaté. Bouche ample, très opulente, sur le fruit rouge avec un bon équilibre sur des tanins moelleux et une très belle fraîcheur. Un vin gourmand à servir entre 16 et 17 degrés sur des viandes rouges ou des viandes blanches en sauce et qui accompagne très bien également les fromages. Ces deux vins sont disponibles à la Société des alcools du Québec. Leur agent est Select Vin. Les coordonnées seront indiquées sur notre blog. Thank you. Dieu remplit la terre d'épinards, de choux-fleurs, de brocolis et de toutes sortes de légumes pour que l'homme et la femme puissent s'alimenter et avoir une diète saine. Mais Satan créa le McDonald's, et McDonald's créa le Big Mac, et Satan demanda à l'homme, « Le veux-tu avec des frites et un coke ?»« Oui, grand format !» répondit l'homme, et l'homme grossit. Alors Dieu dit, « Qu'il y ait du yogourt pour que la femme que j'ai créée de la côte de l'homme conserve sa silhouette !» Mais Satan créa le chocolat, et la femme grossit. Dans sa grande mansuétude, Dieu créa les salades et l'huile d'olive et vit que c'était bien. Mais Satan créa la crème glacée et la femme grossit encore. Dieu dit alors, « Je vous donne des fruits en abondance pour qu'ils vous servent d'aliments. » Et Satan inventa les œufs brouillés avec des saucisses et l'homme grossit et son cholestérol grimpa en flèche. Dieu créa les chaussures sport et incita l'homme à courir pour perdre ses kilos en trop. Satan inventa la télé par satellite et y ajouta une commande à distance pour que l'homme n'ait pas à changer de chaîne à la sueur de son front. Et l'homme grossit encore. Satan souffla à la femme. « Les apéritifs sont appétissants à la vue de l'homme !» Et la femme apporta à l'homme des chips, des olives, du fromage et une bière. Et l'homme, agrippé à sa télécommande à distance, mangea les apéritifs qui étaient abondants en cholestérol et Satan vit que c'était bien. Et l'homme eut les coronariennes obstruées. Dieu dit qu'il n'était pas bien que l'homme ait un infarctus et créa le cathéter et la chirurgie cardiovasculaire. Et Satan créa la sécurité sociale et les compressions dans la santé et les files d'attente. On m'a rapporté que Dieu indigné, mais alors vraiment indigné, aurait dit qu'ils aillent tous au diable à la fin. Il fallait bien que Dieu soit vraiment très fâché. Car enfin, le Dieu que je connais est si poli qu'il ne sacre jamais. Moi, je pense que celui à qui a fait grandement plaisir la colère de Dieu, c'était à Satan. Quel tanin celui-là! Merci, auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous. Vous trouverez les liens de nos invités sur notre blog dont l'adresse est www.vsgourmand.wordpress.com. Je vous attends samedi prochain à midi pour une autre joyeuse émission sur la gourmandise. Je suis votre animateur Roger Huet. À la technique étaient Guy Lafrance et Vital Côté. Bonne semaine.